Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le commentaire de
Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
Ben, on enchaîne sur le même sujet avec Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Oui, parce que là, le français au Québec, c'est à quelle partie à Ottawa va être le plus grand défenseur du français?
Écoute, c'est comme... Répète ça encore?
Non, mais Erin O'Toole, là...
Non, mais c'est fou, là. Moi, ça fait quand même trop d'années. Je ne compte plus les années depuis lesquelles je suis à Ottawa. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. C'est une première.
Parce qu'en général, là, la loi 101, autant les conservateurs, encore plus les libéraux, à une moindre mesure, les conservateurs, mais à Ottawa, on n'était pas très sympathiques. Au Canada anglais, les partis fédéraux n'étaient pas très sympathiques aux idées qu'il y ait la loi 101 au Québec, là.
Non, mais je te dirais que chez les conservateurs, l'idée de reconnaître le droit du Québec à son identité...
Oui, c'est ça.
C'est un virage qui a commencé avec le débat sur le voile, la loi 21, puis etc. À partir du moment où, objectivement, tu reconnais que le Québec a le droit de légiférer sur la laïcité, c'est conséquent de reconnaître la valeur de la loi 101, là. Parce que c'est le droit du Québec. Et je pense que ce virage-là a commencé plus certainement sous M. Scheer. Mais rappelle-toi que M. Harper...
Il avait reconnu le Québec comme nation, puis il avait dit qu'il y aurait des conséquences à ça, concrètes.
Il avait reconnu le Québec comme nation et débutait toutes ses allocutions, où qu'il soit, au pays ou dans le monde, en français.
Ouais.
C'est très loin de l'Alliance canadienne et du Parti réformiste où on voulait enlever le bilinguisme chez Air Canada, là. Mais c'est une progression naturelle, je te dirais, chez les conservateurs, qui ont bien saisi qu'il faut qu'ils essaient de recréer une espèce d'alliance des nationalistes, là, sous Mulroney, du vieux fond bleu nationaliste. Alors ça, c'est pas surprenant, on le remarque maintenant, mais ils ont été très habiles là-dedans. Parce que depuis le moment où notre cher député libéral de Saint-Laurent s'est mis les pieds dans la bouche sur l'histoire de l'affichage en français à Montréal, les conservateurs ont sauté là-dessus. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas laissé le Bloc avoir l'initiative et le monopole de ce débat-là. Et c'est ça qui a finalement fait monter la sauce à Ottawa, parce que le Bloc soulève cet enjeu-là,
c'est normal.
Ça ne surprend personne. Quand le Parti conservateur s'en met, puis quand le débat où sur si on doit assujettir les entreprises de juridiction fédérale à la loi 101 dure depuis un certain temps, bien là, c'est intéressant. C'est vraiment les libéraux qui se retrouvent sur la sellette et doublement, parce que jusqu'à ce matin, ils pouvaient plaider que Mme Lambropoulos incarnait une vision particulièrement peu éclairée et qu'elle avait fait une erreur de bonne foi. Mais là, quand c'est la présidente du Parti libéral au Québec, vraiment, que ça soit une anglophone, ça, c'est révélateur. Moi, j'ai jamais vu une anglophone à la tête du PLC au Québec avant, là. Donc, déjà, ça en dit beaucoup. Et qu'elle aille fustiger la loi 101 comme un outil de pression et se lamenter que McGill manque d'argent. McGill manque d'argent?
Ça, c'est la joke du siècle. C'est l'université la plus riche au Québec et de loin, 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 loin.
Et une des plus riches au Canada, tu sais. Alors là, c'est ça le gros problème, là. Mais ça, tout ça, ça sert immensément bien une personne, hein, au fédéral?
Ah oui?
Mélanie
Joly. Ah oui, non, mais je comprends. Mais elle sort comme un leader fort pour le français, là. Elle sort grandie de ça, pas à peu près.
Mélanie Joly voulait profiter de la refonte de la loi sur les langues officielles et de son nouveau plan sur les langues officielles. Elle est une politicienne québécoise. Elle saisit l'humeur des débats au Québec, comme d'autres. Il n'y a pas que les conservateurs qui saisissent ça. Et donc, elle était très ouverte et pousse depuis l'automne déjà là, pour que Ottawa accepte d'assujettir les entreprises de juridiction fédérale à la loi 101. Mélanie Joly, elle a eu plein de discussions comme ministre des langues officielles avec M. Jolin Barrette sur son projet de loi sur le français. Donc, elle sait ce qui s'en vient de ça. C'est pas ce qui s'en vient dedans, mais elle a une très claire idée, on s'entend, des visées du gouvernement Legault. Donc, elle veut tout faire pour repositionner le Parti libéral face à ça. Mais on s'entend-tu qu'elle doit-tu prêcher dans le désert souvent? Alors là, tout d'un coup, la sauce prend, le Québec est en émoi, puis c'est deux libéraux qui mettent le gouvernement dans l'embarras. Alors,
ça force. Sauf que l'histoire qu'on doit retenir, c'est que c'est eux qui s'excusent. Et qu'au Parti libéral du Canada, il fut une époque où c'est Mélanie Joly qui aurait dû s'excuser. Et là, c'est ceux qui ont banalisé, ceux qui ont attaqué la loi 101, ceux qui ont banalisé la situation du français, c'est eux qui s'excusent.
Ben oui, alors c'est quand même, déjà ça en soi, c'est un revirement idéologique, tu me diras, qui est opportun, très probablement, qui est électoraliste. Oui, je suis prête à l'accepter, mais il faut même le reconnaître que c'est beaucoup maintenant. Le défi, c'est que déjà M. Trudeau, dans le discours du trône, a reconnu que le français est une langue minoritaire. Alors que on a toujours dans cette lubie du linguisme canadien, on l'a toujours mis sur le même pied d'égalité que l'anglais, là, ce qui était un peu. Alors déjà, on est rentré dans une certaine réalité. Maintenant, l'enjeu, c'est est-ce que le gouvernement va aller au-delà des bons mots et est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il va passer de la parole aux actes? Et ça, c'est loin d'être fait parce qu'il y a quand même, je veux dire, bon, le Canada anglais est trop pris dans la pandémie, Noël, l'école, les courbes, etc., pour faire attention. Mais si on était en temps normal, à l'heure où on se parle, il y aurait au moins 2-3 éditoriaux du Canada anglais pour se déchirer la chemise
là-dessus
sur comment le Québec est raciste. C'est donc écœurant, là.
Ouais. Il nous reste une minute et quelques secondes pour parler de cette confusion qui semble régler à l'heure qui est. Un décret qui traînait déjà depuis 2 mois dans les livres du gouvernement, qui semblait autoriser dans des cas d'urgence un rassemblement de 250 personnes qui a été interprété de toutes sortes de manières durant la journée.
Ben oui, parce que on s'entend que le gouvernement voulait aussi se donner les moyens. Tu sais, s'il faut négocier les conventions collectives du secteur public, entre autres, ça prend des réunions plus grosses pour pouvoir les voter, etc. Donc, c'est dans cet esprit-là que ce décret-là, mais quand les restaurateurs, les hôteliers, tout le monde est en train de perdre sa chemise, on sera pas surpris qu'il y en a qui aient vu là-dedans une opportunité d'affaires extraordinaire. Et donc, ça a forcé le gouvernement à essayer de remettre la pâte à dents dans le tube et causer, encore une fois, beaucoup de mécontents qui avaient vu dans ce décret
l'ouverture
du gouvernement.
Franchement,
j'ai pas surpris. Ouais.
Non, un des exemples que le gouvernement donne aussi, là, c'est les examens. C'est qui sont des cas de force majeure. Il y a certains examens, des examens graves. Je parle à l'université, mettons, dans des examens terminaux, etc., où on dit il peut pas y avoir de tricherie. Il faut que les gens soient présents. Donc, on a beau les mettre dans un grand local, respect de la distanciation, mais il faut qu'à un moment, là, une journée, dans 3 heures dans l'année, à la fin de la session, ils soient réunis. Donc, c'est quelques éléments comme ça, quelques exceptions, là, qu'on dit qui sont absolument essentielles.
C'est vraiment pour les cas essentiels, mais sans surprise, certains ont sauté sur l'occasion pour voir une grande relance de la communauté des affaires et des grands congrès à Montréal. On a de la misère à se demander comment on va passer Noël. J'ai de peine à imaginer qu'on va permettre des congrès, mais bon.
Emmanuel, merci beaucoup.
Au revoir.
On se reparle. On va s'arrêter dans un instant. Je commente l'actualité avec Pierre Bruno.